Alors, on va recommencer avec la même présentation d'aujourd'hui, où il y a eu un peu des... Donc on a entendu un peu des skits, mais je vais le redire. C'est un sociologue chez Skin, un Skin chez sociologue, le double jeu. Et c'est Vidalescope, je vais peut-être se présenter, vu que la fois j'ai dit que des bêtises. Donc...
Actuellement, en fait, je suis chargé de cours à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, où je peux parler un peu de ce genre de sujet par le biais sur les Cultural Studies. Alors, comme je suis enregistré, je vais éviter de faire une chose que je fais habituellement, qui me porte un peu préjudice, c'est-à-dire dire du mal de ma fac d'origine. Mais et bon, le fait que là-bas, ce genre de sujet n'est pas, visiblement, n'a pas la cote, pour dire les choses aimablement. Donc, on a tendance à me présenter pour corriger des erreurs comme étant de l'Université de Nantes. Et en fait, non, je n'en suis pas. Je ne suis qu'un spectre qui hante la fac de Nantes. Le Voldemort local, celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Ouais. Donc, après ça, c'est le statut officiel. D'autre part, ce que tout le monde a compris au travers de ça, c'est ça va parler donc un peu des doubles identités. C'est que la particularité, c'est ce qui m'intéresse là justement, c'est de parler d'un sujet. Et comment peut-on parler d'un sujet quand on est quand même impliqué dans son sujet? Je vais peut-être un peu improviser par rapport, je fais systématiquement, c'est mon côté punk, je fais un plan et après je respecte pas quoi, mais bon. c'est un peu, voilà, c'est... Il y a, pour l'anecdote, parce que j'en racontais pas mal d'anecdotes, je me suis anecdote, si vous voulez animer vos soirées, vous pouvez m'inviter, vous allez voir quand je vais parler un peu du terrain, j'ai toujours plein de choses à raconter de ce côté-là. Je participe pas mal à des colloques, des conférences qui ont pour thème la musique, alors souvent c'est au sens large. Et en fait, il y a quand même la posture du chercheur qui est neutralité axiologique, rien à voir avec son sujet, etc. Et à chaque fois que je me mets en disant, je dis tiens, lui il va parler du métal, lui il va parler du rap, elle va parler du mouvement gothique, etc. Et je me plante quasiment jamais, c'est-à-dire que tout le monde a un peu la tête de son sujet. Et c'est un espèce de chose où après tout le monde a l'air en se présentant, non, j'ai rien à voir là-dedans, j'ai décidé de m'y intéresser comme ça, par le biais, mais loin de moi d'avoir une attitude de fan. Et en fait, bon, au bout d'un moment, là, je mets un peu les pieds ou les docks dans le plat en faisant une espèce de coming out officiel. Alors, on m'avait dit quand j'avais fait ma thèse sur Skinhead que c'était un suicide social et professionnel. Donc, j'aggrave mon cas en faisant ce coming out. Et on disait, le sujet n'était pas bon, mais encore, si vous n'avez rien à voir, ça peut passer. Eh ben non, on n'a pas qu'à temps. Voilà.
Dans enfin, le show, je pense que tu as peut-être...
Une ouverture.
Donc, effectivement, d'où le double jeu, de savoir... Enfin, c'est quand même intéressant de savoir d'où on parle. Avec deux parties, donc un sociologue chez les Skin. Ce qui est, donc la méthodologie, là, il y a deux sous-parties. Alors, de ce côté-là, je reste très... Alors, c'est un sociologue chez Skin, dire son identité, taire son identité. Un Skin chez sociologue, taire son identité, dire son identité. Vous voyez le truc. Alors, un sociologue chez Skin, dire son identité. Je vais d'abord parler de ça, mais après dire... au départ, je me présentais comme étant sociologue. Pourquoi je ne l'ai plus fait à la suite d'une expérience que je vais vous conter. Et ensuite, un skin chez les sociologues, c'est-à-dire taire son identité, justement, ne pas dire qu'on fait partie de ce milieu-là, d'autant qu'on parle de skin quand même, quoi. C'est-à-dire, si je me présentais en disant « bonjour, je suis punk philosophe », tout le monde trouverait ça cool, quoi, ou rocker historien. Skin sociologue, non, c'est pas cool. Et quelque part, ça peut pas exister, quoi. Et je vais revenir plus tard, ça peut tellement pas exister qu'il y a eu des scènes cocasses, en fait, où je présentais mon travail de recherche à des gens, où ils lisaient, en fait, la codification du look, etc. Les gens étaient là, ouais, très bien, vous avez fait des bons vous êtes vraiment allé profondément sur le terrain, on voit et tout, vous avez bien compris la chose. Alors que c'était flagrant, ce dont je parle, je le porte sur moi, quoi. Je le cachais même pas, quoi. Bon, enfin voilà, quoi. Et après, pourquoi, finalement, ne pas dire son identité, quoi. Alors, tout ça, c'est relié donc à un travail de thèse. J'en parle deux secondes. Mon premier objectif, en fait, sur ma thèse, au départ, c'était révéler le mouvement skinhead. Grosso modo, c'était montrer que tous les skins ne sont pas des nazis, parce que, bon, c'est le truc de base, on va dire, quand on s'intéresse un peu au sujet, qu'on a compris. Vous voyez, tous les forums de discussion sur les skins, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Oui, mais tous les skins ne sont pas des nazis, pote. » Et bon, j'ai apporté ma pierre à cet édifice. Il me semblait, après ça, on mûrit toujours ces sujets, c'était montrer aussi ce que le mouvement skinhead révèle. C'est-à-dire après, c'est ce qui est intéressant aussi quand on parle de ça, c'est déjà montrer historiquement que le mouvement skinhead, c'est d'abord l'histoire d'une crise du monde ouvrier, qui est une radicalisation, on va dire, de la jeunesse, du monde ouvrier, au niveau de son identité, etc. Et ce qui est intéressant aussi, puisqu'on parle autant des nazi-skins, c'est comment s'est construit le phénomène nazi-skin, comment s'est construit notamment médiatiquement le phénomène nazi-skin. Alors la thèse dans ma thèse, si vous voulez, à ce propos-là, c'est que le phénomène nazi-skin est une coproduction médiatique. C'est-à-dire que les médias ont contribué très fortement à construire ce phénomène. Bon, c'est pas le sujet, mais je vous dis ça au passage. D'autre part, il y a aussi ce qu'on peut trouver avec Stanley Cohen, puisqu'on en parle maintenant quand on parle du skin, c'est quand même la création du démon familier. C'est comment c'est devenu un archétype qui fait que quand on parle de skin, ça provoque toujours des réactions, quoi, ça suscite des réactions. Alors, il y a une époque, moi, quand on me demandait sur quoi je faisais des recherches, suivant les personnes, je disais sur les punks. Je disais même pas sur les skins, parce que je savais que ça allait dire « Ah bon, comment ça se fait ?» et tout, machin et tout. Donc, je disais, voilà, les punks, ça parlait mieux, quoi. Alors, dans un premier temps, donc un sociologue sur les skins, dire son identité, enfin, je vais être obligé un peu de résumer, mais il y a tout un travail de terrain. Alors, c'est ce qu'on m'a dit quand même à ma thèse, à part cette histoire de suicide professionnel, c'est que toute la partie terrain que j'écrivais était quand même riche et mériterait d'être enseignée, notamment parce qu'en toute modestie, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables qui font qu'après, j'ai mieux construit tout ça, quoi. Une des premières erreurs, c'est que, alors, je suis en train de réfléchir à comment, jusqu'à où je dois remonter pour expliquer ça, quoi. Mais pour être objectif, en fait, je m'étais dit, il va falloir que je rentre en contact, que je fasse parler des skins de gauche, globalement, et des skins de droite. En fait, les skins de gauche, j'avais pas très loin à les chercher, quoi, pour tout dire. Les skins de droite, au niveau de mon carnet d'adresse, c'était un peu plus difficile. À Nantes, en fait, on m'avait dit, il y en a pas mal, des historiques qui traînent... Ils traînent du côté des stades parce qu'ils sont liés avec les milieux hooligans. Donc, vas-y, je prends des contacts. Alors, les contacts, pour ceux qui connaissent un peu la scène, c'est-à-dire ça consiste à parler à un skin de gauche, qui connaît un skin sharp, qui connaît un skin apolitique, qui connaît un skin de droite, qui connaît un skin nation, qui connaît un skin néo-nazi. Quoi. Donc, c'est une espèce de chaîne comme ça. Finalement, j'arrive à faire... Je me présente en tant que sociologue. Je dis, voilà, je vais faire un truc de sociologie. Je voudrais voir comment vous fonctionnez. Enfin, vraiment, le type naïf, quoi. Et c'est parti, quoi. Je vais au stade, à leur rencontre. Les types acceptent. Alors, ce qu'il faut savoir, la réflexion, c'est souvent les groupuscules. Alors, malgré le fait que j'ai été accueilli comme étant effectivement un sociologue, un sale gauchiste de merde, etc., voilà, qui servait à rien, quoi. Mais finalement, même on trouve toujours dans ces groupuscules des gens qui sont intéressés à ce qu'on parle d'eux et qu'on montre de l'intérêt pour ce qu'ils font, quoi, parce que ça leur donne une certaine légitimité quand même. Donc pour expliquer pourquoi ils acceptent quand même de parler, quoi. Alors comment ça... Alors parmi les erreurs, c'est que... Alors pour ceux qui font du terrain, ça va vous faire rire, mais... La première erreur digne de Tintin des Dupont, quand ils essayent de s'insérer dans un milieu. J'ai dit, comme je vais voir des nazis skins, un peu quand même, je force un peu le look, je mets à raser à blanc, bomber et compagnie, quoi. Je vais, comme ça, ils vont sentir, je vais jouer un peu de la proximité, quoi. Et les types, ils me voient arriver au stade, horreur, disant, parce que j'ai pas compris, c'est au stade, on se joue qu'à jouer, on le passe partout, quoi. C'est la règle numéro 1, on n'arrive pas à looker comme ça. Donc voilà. Donc là, je vous fais rire, mais vous voyez les Dupont en Chine et compagnie, c'est vraiment ça. Donc, il croit qu'il va passer très bien, et en fait, tout le monde est là en train de se moquer de lui. Il m'avait dit, ok, tu rentres avec nous, mais après nous, parce que tu fais office de gyrophare, quoi. Effectivement, quand je suis rentré, les CRS sont venus vers moi, j'étais complètement... Bien joué, content. Alors, ceci dit, après, je rentre... Pour dire comment ça se passe, je rentre dans le stade. Et puis à la fin du stade, bon, ce qui doit arriver arrive. En fait, il commence à ruiner la tribune présidentielle, à faire les shows, etc. Ça se bagarre. Bon, après, il y a tout le discours. On peut dire comment se positionne le chercheur quand ça part en vrille comme ça. C'est-à-dire, il y a un truc, c'est qu'il ne faut pas trop s'éloigner du groupe. Parce que c'est quand même là que vous êtes paradoxalement le plus en sécurité. Si vous éloignez du groupe, tous ceux qui font des manifs le savent, c'est les flics vous tombez dessus, quoi. Vous pouvez dire non, j'ai rien à voir avec ces mecs-là, ça va pas marcher, quoi. Donc voilà, c'est un peu difficile. Je renouvelle plusieurs fois l'expérience. Et à chaque fois, ça part en saucisse, ça part en cacahuète. Mettez les mots que vous voulez là-dessus. C'est quand même assez tendu, quoi. Entre temps, j'arrive quand même dans les tribunes à parler avec les leaders, quand même, pour savoir comment ça se passe, etc., quoi. Sur ce. Quelques mois après, je reçois une convocation de la part de la police, et plus notamment des renseignements généraux, avec l'intitulé « Affaire, match de football, vous êtes convoqué », et puis c'est marqué « Affaire vous concernant ». Donc je sais pas, mais je me doute quand même qu'il se passe quelque chose, quoi. Donc je vais avec les recherches, les notes que j'ai prises quand même dans le cadre de mes travaux sociologiques, quoi. J'arrive au poste, je peux faire accueillir par un lieutenant de police ou quelque chose comme ça, qui me gratifie directement d'une grosse baffe dans la face, et qui me dit « c'est bon, là », il appelle ses collègues, il dit « c'est bon, on a le connard ». Donc j'ai pas mal comme introduction, quand même. Hein. Alors, on sent le quiproquo. Et le type, en fait, me sort... Le type me sort des photos de moi, et on voit que des agrandissements. Je suis en train de parler avec des leaders, en fait, hooligans, dans les tribunes, avec mon crâne rasé et tout, puis je suis là, puis... Alors, sur le moment, la blague, je dis, je pourrais repartir avec les photos, éventuellement, parce que ça m'intéresse dans le cadre de ma recherche de terrain, quoi. Bon, ça n'a pas fait rire, quoi. Et les types, ils m'expliquent calmement, ils disent, bon, bah, c'est bien, on est content d'avoir mis la main sur vous, parce que vous êtes le chef, en fait, des hooligans. Et en fait, ça, dans leur logique, ça se tenait. Ils disaient, quand vous êtes là, en fait, ça part en vrille. Quand vous n'êtes pas là, c'est calme. Mais en fait, ce que j'ai compris après, c'est que ce que tout le monde sait normalement, c'est que par ma seule présence, je déformais le terrain. C'est-à-dire que comme ils savaient que j'étais là pour les observer, les types m'étaient à surmultiplier pour foutre la merde. Et quand j'étais pas là, c'était plutôt détente, plutôt repos, quoi. Mais de la part de la police, à chaque fois, ce qu'ils avaient interprété, c'est quand j'arrivais, je parlais avec les leaders en disant « Bah les gars, vous faites quoi hein ?» Il n'y a pas la merde, comment ça se fait et tout. Et quand j'étais pas là, les types, bon, ça va, il n'y a pas le chef sur le dos et tout. Et pour eux, ça rentrait bien dans leur truc en disant, vous êtes là, vous êtes quand même assez voyant, mais en même temps, vous ne faites pas prendre, participez pas aux actions directement, donc vous êtes un malin, machin, etc. Donc, ça a été assez difficile de se sortir de ce genre d'histoire. Bon, les renseignements généraux voulaient faire un partenariat sur ma thèse. Donc, j'aurais eu ma thèse avec le concours. Ouais. Bon, j'ai décliné quand même pour toutes sortes de raisons, notamment parce que je voulais pas que mon corps soit retrouvé flottant au cours de la Loire. Alors, ceci dit, je vois qu'on rigole un peu plus que le... C'est moins pathétique que... J'en suis arrivé, donc là, c'était dire son identité. J'en suis arrivé, donc, fatalement, à taire son identité de sociologue chez les skins, quoi. Donc voilà, vous comprenez le processus. Et après, j'ai fait que de l'observation participante, comme on dit. C'est-à-dire sans dire que j'étais sociologue, mais en faisant donc jouer l'étiquette enfin, du type de la scène. Pour moult raisons, en fait, parce que, enfin, comment dire, là, c'est vraiment pas parler des règles, de méthodologie, de choses comme ça. C'est que les gens, quand ils vous questionnent... Enfin, disons, quand vous êtes en tant que sociologue, vous parlez avec les gens, n'importe quel skin de n'importe quel milieu va jouer le rôle de porte-parole ou d'ambassadeur de sa propre mouvance. Ça, on le sait. Et donc, si vous voulez vraiment avoir quelque chose, une vraie parole, il faut mieux faire comme si vous étiez faites partie du milieu. Les règles à respecter, en fait, comme disait Bill Buford dans son livre « Parmi les hooligans », j'ai bien aimé parce qu'en fait, c'est absolument vrai, il disait « ne pas trop boire, ne pas trop parler et ne pas se montrer inutilement intellectuel ». Vrai. Tout à fait vrai. Alors, sur ne pas trop boire, c'est un milieu qui est assez difficile à respecter, il faut bien le dire. C'est que souvent, ça s'enchaîne. Alors, j'ai fait notamment des entretiens chez moi, et la plupart des personnes venaient avec des packs de bière. Donc, en fait, on voit la dégradation tout au long de l'entretien, à mesure que les bières se vident et que la parole se lâche, quoi. Donc, souvent, c'est à la fin, c'est freestyle total, quoi. Alors, petite anecdote aussi, puisque j'ai tout appris sur le terrain. Ne faites pas les entretiens chez vous. Ou alors apprenez à respecter les horaires. Mais t'es arrivé un truc désagréable, c'est que les gens de gauche que j'avais invités se sont attardés et les gens de droite sont venus un peu en avance. Donc ils se sont croisés dans mon appartement, chez moi, il y a eu bagarre après sur le palier, il y a eu bagarre un peu dehors, etc. Ce qui a un peu compliqué mes relations de voisinage, en fait. Voilà. Donc j'ai quand même déménagé plusieurs fois suite à des aventures comme ça. Bill Buford parle de ça dans son livre, c'est pareil, il y a eu des fois où j'ai vraiment regretté, notamment cette fois où j'étais avec deux skins anglais qui étaient vraiment des historiques, qui avaient fait partie de vraiment des choses très intéressantes. Les types ne connaissaient pas trop, donc au départ, c'est bon, on va d'abord boire une pinte, puis on va apprendre à se connaître, quoi. Bon, on se connaît mieux avec après deux pintes, après trois pintes, etc. Puis bon, au bout d'un moment, j'étais complètement redblindé, et c'est là qu'ils ont commencé à parler. Et le lendemain, je me souvenais quasiment de rien, de ce qu'ils avaient pu me dire, de ce essentiel que je voulais absolument savoir. Et aller prendre même des notes dans les toilettes, enfin des choses comme ça, ce qu'on entend un peu, bon. ne pas trop parler, c'est vrai. Alors ça, c'est un truc qui est rigolo, je vais le dire, c'est que vous instaurez, en fait, ce sont des milieux où il y a beaucoup de mythomanie. Alors c'est pour ça que c'est bien aussi de bien connaître de l'intérieur, etc. C'est que quand je lis des travaux de collègues qui ne connaissent pas le milieu, je vois parfaitement les bêtises, enfin ce que les gens peuvent raconter comme bêtises quand ils sont dans un milieu, c'est-à-dire surestimer les effectifs, ils sont la bande la plus puissante de machin truc, etc. J'ai côtoyé de l'autre côté aussi, je connais les mises en scène de la part des skins, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un photographe qui va venir, tous les copains qui sont plus ou moins dans le truc, on leur file un bomber, un look et tout, et puis comme ça on est 25 sur la photo, plutôt que d'être 5 le noyau dur. Enfin bon, voilà, c'est des choses qui se pratiquent. Quoi, hein. Donc là, ça permet de dire non. Quoi. Ne pas trop parler, parce que bon, ça permet... le truc qui est rigolo sociologiquement là, de ce côté-là, c'est qu'on peut devenir une espèce de surface de projection de fantasmes des gens. Je dis ça, c'est que quand j'allais dans les milieux, par exemple, de droite, très nationaliste, les gens me voyaient vraiment comme un mec de droite nationaliste. Ouais. Ils se posaient pas du tout la question, et notamment du fait que, comme j'étais là, parmi eux, ils n'interrogeaient pas ma présence. Alors le côté, quand je disais ne pas trop parler, c'est parce qu'il faut savoir que dans ces milieux-là, il peut avoir toute une façon de parler, ça peut être très codifié. Donc mieux vaut ne pas trop dire de bêtises. Quoi. Alors parmi les anecdotes magiques que j'ai, j'en ai une que je pourrais appeler une nuit chez les naziskins. En fait, suite à un concert, pas trop que je m'étende non plus, qui était bon, relativement apolitique, comme on dit, mais c'est suivant les lieux géographiques, c'est un apolitisme qui peut être plutôt de gauche ou plutôt de droite, quoi, pour ceux qui connaissent. Quoi. Là, c'était plutôt de droite, plutôt campagne, quoi, on va dire. Et donc, sans étiquette, ouais. La personne qui m'avait amené, parce que j'avais un informateur, alors juste parenthèse, le bon informateur, en fait, ce qui est bien, c'est quelqu'un qui est reconnu dans la scène, mais qui va bientôt la quitter. C'est-à-dire qu'il commence à prendre du recul, mais en même temps, il est reconnu. Donc voilà. Donc je le suivais un peu partout. Et là, il reçoit un message de sa femme disant que sa fille est malade, machin, quelque chose, il faut qu'il rentre en urgence. Il me dit « Bon, bah, tant pis, je peux pas te raccompagner, mais je connais des types là-bas, ils vont te raccompagner ». Donc, bon, j'ai pas trop le choix, je dis oui. Les types dans la voiture, ils me regardent, ils me disent, ouais, à tous les coups, ça va pas te déranger, si on fait une petite fiesta en plein de cambrouche chez des amis, quoi. Et j'arrive, je dis oui, bon. J'arrive là-bas, et en fait, c'était Naziland, quoi. T'as. Et bon, c'est-à-dire que ma voiture était loin, je connaissais quasiment personne, si ce n'est qu'il m'avait vu parler avec quelqu'un, qui connaissait aussi quelqu'un, etc. Et là, il y a deux choses. Il y a un moment d'excitation où vous vous dites, ah, ça y est, je suis vraiment dedans, c'est cool, je vais pouvoir voir comment ça se passe, etc. Et les moments de panique, vous allez dire, mais comment je vais m'en sortir finalement, quoi. Et parmi les trucs, à un moment, je regardais les disques, je vais noter au moins ce qu'ils écoutent au niveau musique et tout, me tenir à jour. Donc je regarde tous les disques, puis genre, une grosse paluche se pose sur mon épaule, il me dit, vas-y, mais ce que tu veux. En fait, je connaissais rien. Il me dit, si j'en prends un au hasard, que c'est pas du tout ça qu'il faut mettre, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc voilà, c'est les moments un peu de stress. Moi, j'ai un collègue qui m'évite dans ce genre d'événement, si vraiment c'est trop tendu, faut simuler, on a trop bu, puis faire le mec qui s'endort vaincu par l'alcool. Quoi. C'est un truc qu'on voit partout, donc ça permet de se sortir tranquillement de ce genre de situation. Quoi. Et pas se montrer trop intellectuel, bon ça j'ai vu aussi, c'est des fois où, bêtement, à un moment, je parlais avec, des fois on s'oublie. Quoi. Et là c'était avec des gros nazis, puis je parlais de musique noire. Donc musique noire, ceci, cela et tout. Et puis à un moment, le mec, il me dit, mais pourquoi tu dis pas nègre comme tout le monde, quoi. Mais où ai-je la tête. Donc voilà. Donc après, on pourrait parler après dans les échanges comment, mais il y a toute une manière de savoir comment se comporter, ce qu'il faut dire. Ah oui, ce que je disais, ne pas trop parler, là où ça génère des fantasmes. Je me souviens d'un concert, en fait, où j'étais plus ou moins près des leaders, je disais rien. Puis à un moment, bon, je vais au bar tout seul, puis je vois une bande de jeunes qui me suit, quoi. Bon, je vais dehors à l'époque où j'avais tous les vices, fumer une cigarette, puis ils me suivent encore. Et après, j'ai compris, en fait, ils m'identifiaient vraiment comme un leader, et puis ils attendaient que je leur raconte quelque chose, quoi. Alors, ils disent, ouais, les gars, je vais vous dire ce qu'il en est de l'Occident, ou un truc comme ça, quoi. Sauf que j'avais rien à leur dire, mais... et pour le fait que je parlais pas, ça renforçait, j'ai vu chez eux, une espèce d'aura de mystère, de mec qui devait vraiment être là à tirer les ficelles, parce que c'est un truc aussi de sociologues, quand ils connaissent pas ces milieux, ils ont tendance à tourner vers les gens qui sont les plus identifiables quelque part, mais souvent ce sont ceux qui rentrent dans la scène, c'est-à-dire ce sont ceux qui connaissent le moins, qui ont le moins de choses à dire. Souvent les gens qui sont profonds dans la scène, ce sont les gens qui sont le plus passe-partout. Parce que pour plein de raisons, ils n'ont pas forcément envie d'être identifiés, de faire gyrophare, comme je disais précédemment. Et d'autre part, comme ils sont parfaitement connus, ils peuvent s'affranchir de tous les codes vestimentaires un peu superflus. Et justement, le vrai signe du pouvoir, c'est que vous n'avez plus besoin de démontrer que vous avez du pouvoir. Il y a le côté un peu...
Il y a tout un truc comme ça sur les chefs, sur le chef, il est discret. En général, le blanc qui arrive, il ne voit pas le chef. Il voit la parole du chef.
Tout à fait, ouais. Et c'est exactement ça, quoi. Et là, c'est le genre de truc, quand vous restez, comme je disais, dans cette position un peu discrète, un peu en arrière, donc justement, ça crée un peu du fantasme de ce côté-là, quoi. Bon, voilà sur un peu sur Terre, son identité. Ce qui n'a pas... Bon, il y a eu quand même des choses. Je vous avouerai que ça a été un travail de terrain assez remuant, quoi. Avec ponctué, bon, le truc le plus fort, c'était les menaces de mort. Un jour, je reviens dans une voiture, en fait, et puis avec d'autres gens, enfin deux personnes que je ne connaissais pas, ils se marrent entre eux, comme des gamins, quoi. Puis ils disent, tu le reconnais pas, c'est lui qui a fait une descente dans ton appart un tel jour et tout. J'avais effectivement un commando nation-breton qui était venu chez moi. Il avait un flingue, en fait, il voulait se farcir un rouge et tout. C'était toi, c'est marrant, maintenant vous êtes dans la même bagnole et tout. Ok, super. On rigolait un peu jaune, mais bon, c'est... Alors bon, ça c'était, je résume un peu, mais c'était pour voyez un peu le côté terrain, ce qui peut en être sur des terrains comme ça, quoi. Alors maintenant, Askin chez les sociologues, là ça va développer, ça va être un peu autre chose. Alors là, vous avez vu précédemment, c'était dire son identité, taire son identité. Là, je commence par taire son identité. Le sujet, je sais pas, je pense que la plupart en est convaincu. En fait, le problème sur ce genre de sujet, c'est que d'une part, c'est pas un sujet qui est considéré comme légitime encore dans beaucoup de, on va dire, de parcours universitaires. Alors là, non seulement c'est pas un sujet légitime, je veux dire parler du punk, des contre-cultures, des choses comme ça, c'est que en plus, si vous parlez des skins, c'est un sujet suspect. C'est-à-dire que, comme ça, c'est lié dans l'imaginaire collectif à l'extrême droite, quelqu'un qui parle, en fait, c'est pas seulement les skins, c'est-à-dire que ceux qui vont faire des sujets sur la police, sur l'armée ou sur des choses comme ça, il va avoir une suspicion d'empathie pour son sujet, et donc c'est pas très clair. C'est ce que, alors je pense à la préface qu'a écrit Daniel Bizel sur son ouvrage Parmi ceux du FN, où il parle de ça à la réception, où il dit notamment qu'il est plus confortable moralement de s'attacher à faire des études sur les gens qui sont dominés, sur les victimes, plutôt que de se mettre du côté des bourreaux, que ce soit avéré ou que ce soit seulement une image. Donc voilà, alors moi je sais qu'au niveau de... Bon, ça a été clair. Alors en plus, skin, ça renvoie à nazi. Alors après, si on veut faire le truc, le raisonnement, si le chercheur c'est un skin et que tous les skins sont des nazis, c'est-à-dire que le chercheur est un nazi, quoi. Donc c'est un peu ça le problème, quoi. Après, là je vais devenir un peu plus sérieux après toutes les anecdotes. Le sujet suspect, il y a plein d'aspects par rapport à ça. C'est qu'il y a une espèce de dévoilement aussi. Enfin, il y a un dévoilement qui va se mettre à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué aussi, c'est ne serait-ce de montrer une espèce de réalité sur le mouvement skinhead, comme quoi c'est beaucoup plus ambigu que ça. Ça renvoie souvent, je vais le dire comme ça, chez certains chercheurs, certains sociologues, ça renvoyait à leurs propres présupposés. C'est-à-dire que par rapport à des gens qui étaient censés ne pas avoir de présupposés, là, ça les mettait en face parce qu'eux pensaient aussi, en toute méconnaissance de cause, quelque part, que les skins, effectivement, c'était des nazis, quoi. Et parce qu'en fait, on peut en reparler, mais l'image du skin, en fait, c'est un archétype utile, quelque part. C'est un truc qui fonctionne hyper bien, cette image de bête et méchant, de brute, alcoolique, hooligan, etc. Ça fait que c'est un espèce de truc confortable intellectuellement, et c'est toujours difficile de compromettre un peu ça, quoi. Et d'autre part, en fait, tel que je parlais, parce que pour être objectif, comme je disais, j'étais allé dans les milieux nationalistes, etc., etc. Ce que je pouvais raconter, ça pouvait amener une espèce de démystification du nazi skin, comme on voit dans la presse sensationnaliste ou parmi les chercheurs antifa et compagnie, de les remettre à des proportions où on s'aperçoit que des fois, la plupart du temps, c'est juste des idiots, quoi. Ça peut être des idiots dangereux, mais ce sont souvent, avant tout, des idiots, quoi. Et je lisais ça à propos de ce livre, je ne sais pas si les gens le connaissent. Donc Ingo Hasselbach, en fait, c'est quelqu'un qui venait de la scène naziskine allemande, et en fait, qui en est sorti. Il écrit son livre, il dresse une galerie de personnages des naziskines allemands, où en fait, il y a du pathologique, il y a du pathétique. C'est vraiment, enfin, comment dire, c'est vraiment beaucoup de gens qui ont des problèmes avant tout psychologiques, hein, pour dire les choses. Et en fait, le chercheur disait à un moment, alors je vous lis le passage, en donnant à voir de l'intérieur ce qui a été et ce qu'est le mouvement néo-nazi allemand, autrichien et international, il le ramène à ses justes proportions, montre que ce qui fait sa force ne tient pas à lui-même, mais à la manière dont la société, ses institutions le traitent. Et en fait, il continue à propos de ça en disant que même les antifas ne l'ont pas reçu à bras ouverts. Parce que pour les antifas, en fait, pour se, comment dire, se montrer eux-mêmes solides, glorieux, etc., il faut qu'ils aient en face d'eux des ennemis qui soient, aussi, qui soient solides, qui soient glorieux, etc. Si vous leur montrez qu'en face, c'est juste des abrutis, des espèces de rennecks, des pauvres types et tout, c'est pas des chasseurs de nazis, c'est des chasseurs de bouffe, quoi. C'est pas du tout la, c'est pas du tout la même chose, quoi. Il va peut-être falloir couper ça, non? Putain, merde, comme si j'avais passé dans merde. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, et donc, il y a tout. Moi, j'étais étonné par rapport aux médias. C'est pour ça que je parlais de la coproduction médiatique du phénomène Nazi Skin. C'est que par rapport à des gens que j'ai eu l'occasion de rencontrer, et des clients sérieux, il y en a quelques-uns qui ont terminé en prison quand même pour apologie de la haine raciale, machin, crime de guerre et tout ça, quoi. Mais j'étais stupéfait du niveau, quoi. Vraiment, je veux dire, franchement, quand les mecs jouent les shows devant les caméras en disant « on a une énorme organisation et puis on gère ça et tout », vous voyez les types sont là devant l'ordinateur, mais c'est où que ça s'allume déjà et tout. Super, des cyber warriors, quoi. Enfin, voilà, quoi. D'autre part, enfin bon, vous voyez sur les... Ce qui m'interroge aussi, alors c'est maintenant, c'est là que je porte le plus mon attention, c'est sur les problèmes d'identité. En fait, quand je parle à... C'est vrai qu'on peut pas, on peut difficilement imaginer un skinhead sociologue, parce que ça fait des représentations qui se heurtent trop. Le fait est qu'en parlant de ça, c'est qu'on parle des skins, souvent on s'aperçoit que dans les reportages, dans les articles, ils n'ont pas une véritable existence, ils n'ont pas de vraie densité. Même quand on le voit dans les films, on a l'impression que c'est juste une image, mais qu'est-ce qu'ils sont derrière? Ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas de copine, ils n'ont pas d'enfants, etc. C'est un travail que j'approfondis notamment avec ma copine qui est photographe et justement qui travaille sur la représentation des sous-cultures. Et ce qu'elle fait, c'est par exemple, c'est aller les photographier chez eux ou à leur travail pour montrer que c'est des gens qui peuvent avoir, qui ont un emploi, qui existent réellement, etc. Alors il faut s'enlever cette image de Nazi Skin. Mais quand je faisais des entretiens, il y a des gens, alors ça a peut-être effrayé pour les gens qui restent sur leurs présupposés, mais qui travaillent énormément dans le secteur du social, de l'éducation. Il y a beaucoup de skin girls, par exemple, qui travaillent au niveau de secteurs de l'enfance hospitalier, soit dit en passant, quoi. Donc, ce n'est pas du tout des gens qui sont asociaux, qui sont, comment dire, marginalisés à fond. Voilà. Et le fait est, c'est que, comment dire, pour revenir là-dessus, c'est le mouvement skin n'est pas celui des débuts des années 80, qui était vraiment un milieu, enfin, si vous pensez au skin déal, etc., qui était vraiment un milieu marginal, avec tout ce qui tournait avec, c'est-à-dire la toxicomanie, la délinquance, des choses comme ça. C'est une réflexion là que j'amorce plus globalement sur la contre-culture, c'est que maintenant, aujourd'hui, enfin, je vois par exemple les jeunes skins appartiennent beaucoup plus à la classe moyenne qu'à la classe ouvrière, ça c'est clair. Autant il y a un truc fondamental normalement dans le mouvement skin, c'est l'appartenance à la classe ouvrière. Là, la plupart appartiennent aux classes moyennes. C'est pas une insulte de dire ça, c'est plutôt un fait, quoi. Avec des gens qui sont acérés, et ce qui montre aussi qu'en fait, dans le parcours sous-culturel, ce sont des gens qui prennent des identités, en fait, des identités fluides et qui correspondent à des moments de leur vie. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler, il y a un moment, ils peuvent se retrouver avec plein de potes, on va dire, pour aller voir des concerts, pour assister à tel événement ou pour aller dans tel type de café, etc. Et donc, on est de plus en plus dans des problématiques où ce sont des gens qui sont habitués, en fait, à manier différents types, traits de leur personnalité ou type de personnalité. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement, c'est voir quand on fait des entretiens un peu plus fouillés, c'est comment eux gèrent leur propre identité. Moi, je parlais de mon identité, on va dire, au niveau de la fac, mais comment eux le gèrent dans leur propre travail. Parce qu'il y a toujours les tatouages. Vous voyez, par exemple, les tatouages, ça s'est vachement vulgarisé au sens propre du terme. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a des filles skinhead qui me disaient ça quand elles sont en milieu hospitalier, qu'elles commencent à remonter leurs manches pour faire une piqûre et puis qu'on voit des trucs en gothique, skinhead et compagnie. Bon, si le type n'est pas prévenu, on peut se demander s'il ne va pas avoir une euthanasie non prévue au programme, si ce n'est pas en train de se transformer en cauchemar. Mais bon, voilà, il y a, en fait, on est plus dans des modes de vie en fait qui sont donc situés et stratégiques pour bien parler là du coup, et qui sont avec des gens qui apprennent à manier justement des différentes identités comme ça quoi, d'une manière réflexive. Pour finir, ben bon, j'étais un peu, peut-être un peu, comment dire, un peu brouillon sur la fin, mais c'est parce que je pense que vous allez après m'aider à me remettre sur les rails si vous avez des questions, parce que vous comprenez bien quand je parle de ça, ça fait penser à plein d'autres choses que je pourrais dire sur ceci, sur cela, donc c'est un peu compliqué. Et ce qui fait que, alors on pourrait revenir, c'est Sarah Sorton qui parlait à propos des capitaux, vous avez des références à Bourdieu en disant qu'effectivement toutes ces histoires de capitaux, on va dire culturel, officiel, légitime, etc., que même dans les contre-cultures, on pourrait parler de capitaux de sous-culturels. Et c'est vrai que ça pourrait marcher, en fait. Par exemple, une personne comme moi, je peux avoir des capitaux culturels légitimes, le fait que je sois docteur en sociologie. Et je peux avoir aussi des capitaux sous-culturels légitimes, qui peut être vu, par exemple, si on fait le truc, au niveau patrimoine, ce que je possède, par exemple, au niveau disque. Au niveau culturel, possession d'objets. Au niveau capital social, le réseau que je peux avoir dans ce milieu-là. Capital symbolique, la reconnaissance que je peux avoir dans ce milieu-là. En fait, j'articule, vous voyez, deux types de capitaux qui sont différents. Sachant que, comme je vous l'ai raconté à propos, c'est que les capitaux sous-culturels, des fois, ne peuvent être pas du tout validés dans les, à l'université au niveau des capitaux culturels. Et je pense qu'il y a toujours un problème au niveau de la fac, si je reviens au point de départ, sur la définition de ce qu'est culture légitime ou pas. Et aussi, pour finir là-dessus, peut-être que c'est un truc qui est typiquement français, mais on a un peu l'impression qu'on est dans des postures où, si vous êtes chercheur et tout, vous ne pouvez pas dire que vous appartenez à ce milieu-là. Quelque chose qu'on ne voit pas du tout chez les anglo-saxons. Alors c'est un truc qui est marrant, c'est que les anglo-saxons, il y a énormément de gens qui sont d'anciens punks, d'anciens health, d'anciens rockers, qui peuvent parler avec des journalistes, écrire des livres, etc. Et c'est super validé au nom de l'expérience. Ce sont des gens qui connaissent intimement leur terrain, donc leur parole est précieuse. Là, j'ai l'impression là, que des fois en France, il y a une espèce de mythe d'omniscience, omnipotence du chercheur qui est capable de comprendre un milieu sans jamais y avoir traîné ou sans le dire. Alors qu'on sait, c'est-à-dire pour les gens qui connaissent ce milieu, qu'il faut quand même en avoir été quelque part pour savoir, au niveau de l'expérience, pour savoir ce que c'est. Et tous ces trucs qui ne sont pas dits, mais qui appartiennent à l'expérience pratique. C'est-à-dire, si je parle des skins, c'est-à-dire les manières d'être, moi je pourrais parler longtemps sur la taille du ourlet, par exemple. À quel point c'est un facteur significatif de classement, d'avoir son ourlet qui fasse exactement 1 cm et pas plus. Si vous avez un ourlet malheureux roulé de plus de 2 cm, ça signale que vous venez d'arriver dans la scène, quoi. Si vous avez un petit ourlet de 1 cm cousu au-dessus du deuxième lacet, là vous êtes un bon, vous avez tout compris dans les codes. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut l'avoir vécu et expérimenté pour le savoir. Et puis après, quand vous allez dans les concerts, vous voyez exactement qui porte quoi, ça a une importance, parce que dans tous les milieux, de toute façon, il y a toujours des classements quelque part. Voilà. Donc, je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel. Ça, et tant qu'à faire, je sais pas, je regarde le temps, peut-être que je suis à la. Ah. Ouais. Mais à la limite, si ça dérange pas, je préfère prendre du temps pour répondre par rapport à toutes les pistes que j'ai pu envoyer comme ça.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Christophe.
T'as jamais pris pour un flic ?
Pardon ?
T'as jamais pris pour un flic ?
Dans des milieux comme ça, le fait que... Si, en fait, il y a des règles à respecter, alors pas, comme je disais, à connaître, c'est qu'il est éminemment suspect dans les concerts Oi, par exemple, donc les concerts skinhead, d'arriver tout seul. Parce que, normalement, on est toujours en bande. Et en fait, c'est un truc, par exemple, il y a un film anglais qui m'avait titillé, qui s'appelle, un téléfilm sur qui suit un skin, qui s'appelle Made in Britain, si je me souviens bien, où le type est tout seul. Et en fait, c'est dans ce genre de milieu, c'est hyper rare les gens seuls. Et en fait, là, j'avais fait un espèce de compte-rendu de concert type de Oi. Et en fait, dans le déroulé classique, c'est qu'il y a toujours on se donne rendez-vous chez quelqu'un, où on commence à teaser des bières, et après, on remplit généralement une ou deux voitures. Enfin, par exemple, dans Orange Mécanique, il parle de ça, où il disait que 5, c'est le bon noyau dur de bande, parce que ça remplit une voiture, quoi. Et il y a toujours cette cérémonie, moi je me souviens de ça, où on mettait dans le coffre les battes de baseball, au cas où. Voilà. Potentiellement, on ne sera jamais les agresseurs, mais c'est si quelqu'un venait nous chercher des ennuis au grand. Voilà, quoi. Et ça faisait partie du truc. Et puis, pour ceux qui connaissent un peu, pas faire que des clichés comme ça, mais fameux concert où des fois on ne rentre même pas dans la salle de concert, on passe tout le concert sur le parking à boire des bières avec le coffre de voiture ouvert, à écouter la musique comme ça, parce que c'est aussi le... comment dire, le moment où vous pouvez croiser plein d'autres gens. Et des fois, c'est plus intéressant de parler avec les gens qui sont là, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, d'avoir radio parking quelque part de ce qui s'est passé dans telle ou telle ville, plutôt que voir les groupes que vous connaissez plus ou moins, qui sont plus ou moins intéressants. Quoi. Sur le côté flic, ça ne m'est pas... ça ne m'est pas vraiment arrivé, non, effectivement, qu'on puisse me prendre pour un indicateur. Après, ça a été difficile, quand j'étais menacé de mort et tout, c'est de savoir... il y a, en fait, pour tout dire, c'était dans les groupes nationalistes bretons, vu que je viens de l'Ouest, en fait, la version nationaliste et nationaliste bretonne là-bas. Alors, ce qui est rigolo, c'est que justement, ceux qui étaient précédemment nationalistes français faisaient recouvrir les tatouages avec les cartes de France par des trucs bretons, quoi. Donc, une espèce de passage comme ça, quoi. Et on tombe, enfin, on peut tomber sur dans ces groupes-là des gens qui peuvent être ou plus fragiles ou avec lesquels on peut se lier d'amitié. Alors là, justement, on pourrait être vraiment en plein cœur dans le sujet. Je peux anticiper les questions. C'est que faire des relations d'amitié un peu indignes, parce qu'on peut tisser des liens avec des gens qui sont objectivement, qui sont pas censés être vos amis, quoi. Et là, c'était le cas avec une personne. Et je dois, enfin, j'en parle dans ma tête. Je lui en dois beaucoup parce que il m'a plusieurs fois sauvé la mise face à ses potes. Décidé de me péter la tronche. À chaque fois, il dit ouais, non, pas lui, je l'aime bien et machin. Enfin, il arrive à trouver des trucs où, bon, normalement, c'était mal barré pour moi. Bon. Hein ? Bah, c'est parce qu'en fait, j'étais identifié comme un rouge, en fait, voilà, comme un gauchiste, aggravé par cette étiquette de sociologue, de toute façon, quand même. Et bon, et puis la façon de poser la question, il ne savait pas qu'est-ce que j'allais en faire exactement. Alors autant quand, si c'était, par exemple, quand je les ai observés au stade, montrer que c'était les kings, machin, si c'était pour montrer les contradictions, les trucs qui n'allaient pas chez eux, ça les intéressait beaucoup moins, quoi. Et justement, ce que je disais, c'est-à-dire montrer qu'en fait, eux qui posaient, qui faisaient les durs, etc., de montrer les contradictions qu'il pouvait avoir, les va-et-vient. Alors, vous voyez, en parlant justement, j'en viens à, comment dire, à enrichir mon propos. Par exemple, on peut envisager ces scènes-là comme étant monolithiques, mais en fait, il y a beaucoup de va-et-vient. De gens qui sont de gauche qui passent à droite, de gens qui passent de droite à gauche, des gens qui se donnent à voir comme s'ils étaient des, comment dire... des super warriors idéologiquement bien engagés, et puis qui vont vous dire, bah non, finalement, j'ai rencontré telle fille qui est d'origine arabe, donc j'ai tout arrêté, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, si c'était ça, tes idées, c'était ancré, c'était pas la peine de faire autant de cinéma, quoi. Il suffit qu'une belle fille passe typée arabe pour que, ça y est, néo-nazi, c'est fini, j'arrête tout, bon. Voilà. Mais ça les dérange plus, justement, plutôt que les trucs à la TF1, montrer, regarder, c'est eux qui font peur, manipulent tout le monde, c'est une menace et tout. Ça leur fait plaisir. Serge Ayoub, il disait à chaque fois qu'il y avait un reportage à la télé pour dénoncer Ayoub, légionnaire, etc., le lendemain, le téléphone sonnait sans arrêt pour avoir, pour prendre où est-ce qu'on s'inscrit, quoi, quelque part. Parce que c'est toujours comme... David disait précédemment, c'est tentation pour certains de l'identité négative, quoi. Quand vous êtes considéré comme un bon à rien, mieux vaut être présenté comme une menace qu'à moins que rien, de toute façon, quoi.